Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS, qui a publié « Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif chez Odile Jacob ». Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, auteur de « Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale », plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob, et membre du comité éditorial de Pour l'écho. Et là, on voit la une de Pour l'écho s'afficher. Voilà. Peut-on éviter la récession ? Point d'interrogation. Et avec nous, Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, auteur de « Économie, on n'a pas tout essayé », publié au Seuil. Réaction de David qui nous écoute. « Je ne suis pas favorable au protectionnisme, mais être seul à ne pas le pratiquer est peut-être la pire des configurations. » Non. Alors, je vous pose la question par rapport à ce qu'a dit Gilles Raveau, Élie Cohen. Évidemment, oui, je disais, l'économie, c'est pas la Bible, les premiers seront les premiers, et les premiers seront les protectionnistes.
Non, mais je crois que le problème avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a une confusion fondamentale qui est installée quand on parle de protectionnisme. Il y a le protectionnisme dont on a entendu parler quand on a fait nos études, qui est la protection de ce qu'on appelait les « infant industries », c'est-à-dire les pays qui étaient en phase de décollage économique, décidés de ne pas laisser leur spécialisation être arbitrée par des considérations de marché, et ils décidaient de construire, je dirais, les fondements de ce qu'on appelait dans notre jeunesse les industries industrialisantes, et donc ils aidaient à la constitution de certaines entreprises en les protégeant pendant un certain temps. Ça, je dirais, c'est un protectionnisme qui relève de ce que je pourrais appeler une politique de développement. C'est-à-dire là, pour constituer l'avantage initial, eh bien, il y a une protection qui se met en place pour une durée déterminée. Et la durée déterminée, c'est quoi ? C'est que lorsque l'économie décolle, à ce moment-là, on entre dans un jeu où les règles de l'échange se mettent en place, régulées par des organes qui contrôlent la concurrence, qui contrôlent la libre circulation des biens sur les marchés internationaux, etc. Donc, il ne faut pas confondre, je dirais, la protection des infant industries avec l'usage stratégique de la protection pour tuer un concurrent ou un adversaire. Et autant on peut comprendre que dans la phase de démarrage en Allemagne, au Japon, en Chine, on ait eu recours à ce système de protection, autant on peut ne pas accepter que, par exemple, la Chine actuelle, alors qu'elle fait partie de l'OMC, que c'est déjà une économie développée, qu'elle accepte normalement les règles du jeu, use de manière stratégique l'aide publique pour tuer les adversaires de ses entreprises nationales. Et, pire encore, utilise l'avantage qu'elle s'est constitué sur la durée, notamment, par exemple, sur les terres rares, pour intimider certains pays, pour leur interdire de développer une industrie autonome, par exemple de la transition énergétique, à cause de l'usage qui est fait des terres rares pour l'automobile électrique ou pour les éoliennes. Donc là, il faut vraiment séparer. Tout n'est pas bon à prendre, certainement pas. Et autant je continue à plaider pour une stratégie de développement, autant l'usage stratégique de la protection entre économies développées normalement régies par l'OMC ne peut pas être accepté.
Mais la violation des règles de l'OMC, c'est un sport que tout le monde pratique, les Chinois les premiers, et ça ne change pas. 20 ans après l'adhésion de la Chine à l'OMC, on a fêté les 20 ans, enfin fêté. Regardez ce qui s'était passé pendant 20 ans, ils n'ont à peu près respecté aucune règle de l'OMC, il ne s'est rien passé. C'est un peu comme les sanctions que la Commission de Bruxelles brandit au-dessus des États qui ne respectent pas les règles budgétaires. On brandit des sanctions, mais il ne se passe jamais rien. C'est vrai. Élie Cohen,
ah non, quand même, non, vous ne pouvez pas dire ça. La longue querelle Boeing-Airbus,
il y en a certaines.
Il y a eu des décisions qui ont été prises, des mesures qui ont été rapportées, d'autres qui ont été mises en œuvre. Non, ce n'est pas vrai, on ne peut pas dire que c'est n'importe quoi.
Jean-Marc Daniel, la vision du protectionnisme de développement versus l'autre, je pense que c'est une vision que vous partagerez.
Non, je ne partage pas cette vision non plus. Je suis d'accord avec ce que dit Élie Cohen sur le fait qu'il y a deux formes de protectionnisme. On le sait depuis très longtemps. La théorie économique s'est construite là-dessus. Il y avait le protectionnisme protectionnisme conservateur et le protectionnisme éducateur. Et effectivement, le List, qui est le personnage dont on parle tout le temps, parce que ça a été celui qui s'opposait aux théories libre-échangistes des économistes classiques anglais, lui, il parle effectivement de plusieurs stades de développement d'un pays, et il parle de la nécessité d'avoir un protectionnisme éducateur et de bannir le protectionnisme de conservation.
Mais c'est un peu le propos qui vient d'être tenu, Jean-Marc.
C'est ce que vient de dire.
Oui,
mais les Anglais ont répondu à ça, et donc je vais rebondir là-dessus. D'abord, sur le protectionnisme conservateur, la plupart des gens défendent le protectionnisme conservateur, c'est-à-dire on veut relocaliser, refaire l'industrie à l'ancienne, réouvrir les mines, remettre des cheminées qui fument, retrouver le monde des années
50. Vous exagérez quand vous présentez comme ça, Jean-Marc, ça n'est pas du tout ce qu'on dit.
Je suis désolé, mais juste un point quand même.
C'est quand même refaire du textile en Europe.
Je suis désolé, face à l'initiative chinoise qui nous a privés par volonté politique de l'accès aux terres rares à un certain moment, le fait qu'on veuille remettre en exploitation certaines mines pour nous donner un minimum d'autonomie stratégique dans les nouvelles industries, je suis désolé, mais ça, non seulement c'est une mesure réactive par rapport à la politique chinoise, mais c'est une mesure bienvenue.
Oui.
C'est par exemple la fameuse mine Imerys dans l'Allier qui veut exploiter du lithium.
Donc pour revenir au raisonnement qu'on faisait, en fait, je rappelle là aussi que Tobin, dont le nom est associé à la taxe Tobin, avait fait une grande déclaration en disant: la seule chose que je tiens à préciser, c'est que je ne suis pas protectionniste, car les économistes sont à très rare dose protectionniste. C'est-à-dire, la plupart des économistes, la grande majorité, la quasi-exclusivité des économistes condamnent le protectionnisme.
Oui, mais la réalité de ce que nous observons, c'est du protectionnisme pur dans les faits.
Ce qu'on observe, mais c'est des erreurs, c'est qu'on a un succès démagogique quand on défend effectivement le Made in France, quand on défend... là aussi, c'est ce que disaient les économistes anglais du 19e siècle, il y a un décalage permanent entre l'opinion publique qui est protectionniste et les économistes qui sont pour le libre-échange.
Mais défendre l'industrie et pas celle des cheminées qui fument ne me semble pas complètement aberrant, par exemple.
Non, mais défendre l'industrie, c'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est le bien-être du consommateur. Et donc, c'est pas forcément en produisant les produits à côté de chez lui qu'on va assurer son bien-être. Et quand on regarde la situation...
Mais quel est le bien-être du consommateur si la spécialisation économique d'un pays, c'est les hamburger flippers? C'est-à-dire des services à ce point déqualifiés qui ne génère pas de valeur significative à distribuer au peuple consommateur que tu défends.
Mais le peuple consommateur que je défends, notamment dans l'Union européenne, il est dans une zone qui dégage des excédents extérieurs, cette zone qui est supposée...
Qui est dégagée
jusqà cette année. Voilà. Elle aura cette année un déficit de 19 milliards d'euros après avoir eu 340 milliards d'excédents l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'elle a 19 milliards d'euros de déficit? À cause de l'augmentation du prix du pétrole.
Dégagée grâce à l'Allemagne. Donc...
Grâce à l'Allemagne et grâce à l'Italie qui est un excédent extérieur, grâce à l'Espagne qui est un excédent extérieur. D'accord. Le pays qui est le mouton noir dans cette affaire, c'est la France. Le cas exceptionnel, c'est
à
pas l'Allemagne.
À cause de son degré exceptionnel de désindustrialisation.
À cause de son degré exceptionnel de déficit budgétaire. À cause du fait que...
Quand tu regardes les études, la caractéristique essentielle de la France, c'est que c'est elle qui, sur les 20 dernières années, a fait le plus mal en matière de performance industrielle, et notamment en matière de performance commerciale, en matière industrielle.
Mais parce que je rappelle quand même...
C'est hier qu'il y a des études qui sont sorties qui montrent que chaque fois qu'il y a une relance de la consommation en France, il y a une flambée des importations, et que notre degré de dépendance maintenant, vis-à-vis des marchés extérieurs, pour des approvisionnements en produits textiles, par exemple, c'est 98%, en chaussures, c'est 97%, etc. On est à ce point désindustrialisé qu'on ne produit plus rien en matière de biens de consommation.
Je rappelle quand même qu'un déficit extérieur, ça traduit un manque d'épargne. Il y a une équation simple, S moins I plus T moins G égale X moins R.
Ok, le déficit n'est pas pour rien.
Et le déficit extérieur est lié au déficit budgétaire. Avec cette situation, alors on parlait des aberrations et de la politique de Gribouille sur l'énergie, on a quand même une politique de Gribouille qui consiste à subventionner la consommation de pétrole dans ce pays. Alors que du pétrole, on n'en a
c'est
pas.
C'est pour des raisons politiques, Jean-Marc. Hein,
mais j'entends bien. Oui. Donc les politiques c'est pas pour des raisons économiques. Sont protectionnistes, la réalité économique est libre-échangiste. Dernier élément, je ne reviendrai pas sur les succès de l'Union européenne. Je pense qu'il y a d'autres.
Non, mais juste termine ton raisonnement.
Oui, oui.
On subventionne la consommation. oui. en France. Comme on ne produit pas sur place, chaque relance de la consommation augmente les importations. Et de cycle en cycle, et on constate la descente progressive de la France en matière de spécialisation industrielle.
Mais
tu dois tirer les conclusions de ce que tu dis.
Oui, mais je vais tirer les conclusions simples. Deux éléments. Premièrement, le problème de la Chine, c'est que la Chine est un monopole. Ça ne veut pas dire que pour la mettre en concurrence, il faille forcément faire du protectionnisme en France. On peut la mettre en concurrence en allant investir en Inde, en allant investir au Vietnam, en allant investir dans d'autres pays. Deuxième élément, je cite régulièrement le cas de la Californie. Je rappelle que la Californie vient de passer en dessous de 10% de la part de son PIB en industrie. Je rappelle que la Californie vient de réélire triomphalement son gouverneur et que la Californie, quand notre président de la République a été élu en 2016, avait le même PIB que la France. Aujourd'hui, la Californie a un PIB de 10% qui est supérieur à celui de la France, avec une désindustrialisation
prolongée. C'est un État fédéral. Quand tu regardes la part de la main-d'œuvre manufacturière en France, c'est 9%.
Oui, mais parce qu'elle est productive. Elle est plus productive.
Gilles.
Les baisses d'emploi dans l'industrie, c'est aussi l'évolution de la productivité.
Qu'est-ce que ça vous inspire, le débat qu'on a là? Savoir que finalement les protectionnistes sont peut-être ceux qui, sur la durée, s'en sortent le mieux, qu'ils pratiquent l'un ou l'autre des protectionnismes qu'on a pu signifier avec Jean-Marc Daniel et Eli Cohen, et qu'il y a un moment où il faut bien reconnaître que le tissu industriel français et son délitement, nonobstant effectivement le déficit d'épargne lié au déficit public, est quand même en partie une explication du déclin.
Oui, tout à fait, mais je suis désolé de revenir à ça, mais quand même, parce que c'est quand même c'est le produit de cette histoire qui est récente, il s'est passé quand même quelque chose de très particulier en Europe, et plus précisément au sein de l'Union européenne, de disqualification de l'action politique au sens large. On l'a dit pendant des années, par exemple, quand vous prenez le traité de Maastricht qui crée la monnaie unique, la question de la gestion du change est absente, en réalité. Elle n'est pas traitée. Et on a dit pendant des années, effectivement, les Américains, pourquoi est-ce qu'ils peuvent avoir du déficit commercial? Parce qu'ils gèrent le dollar, d'accord? On sait que, effectivement, il y a un lien entre le pouvoir politique, la Banque centrale des États-Unis, de même que la Chine gère sa monnaie. Les États-Unis ont toujours mené des politiques commerciales. Il y a toujours eu des rétorsions protectionnistes vis-à-vis de tel ou tel secteur. On a abandonné, consciemment, volontairement, avec une justification théorique très puissante, tous ces instruments-là. Les deux grands blocs dont on parle, la Chine et les États-Unis, n'ont jamais cessé d'être dans une logique de puissance. Se sont toujours pensés comme des empires. Quand vous êtes aux États-Unis, vécu 2 ans aux États-Unis, la première chose que vous voyez, c'est que vous êtes dans le pays de la première armée du monde. Et que très régulièrement aux États-Unis, il y a des cercueils qui rentrent. Et ça, les États-Unis, de soldats qui sont tués en Afrique, en Asie ou ailleurs. Ils n'ont jamais oublié. La Chine, encore une fois, est en train de se construire un empire. Et nous, l'Union européenne, qui sommes évidemment... Alors peut-être que c'est la haine de notre histoire, parce que nous avons été effectivement les premiers empires du monde, coloniaux, etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu vraiment un rejet de la politique au sens le plus profond et le plus basique du terme. Aujourd'hui, juste 2 exemples pour illustrer ce que je viens de dire. En termes de soutien à la voiture électrique, qui est par ailleurs sans doute une très mauvaise idée, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Que fait Joe Biden aux États-Unis? Il donne de l'argent aux gens qui habitent aux États-Unis pour qu'ils achètent des voitures faites aux États-Unis. Que fait exactement au même moment Emmanuel Macron? Il a prévu de donner, il a dit lui-même, 6 000 à 7 000 euros d'aide à l'achat d'un véhicule électrique aux gens qui habitent en France. Et il dit, c'est une mesure très large, puisqu'elle devrait concerner, la mesure n'a toujours pas été formalisée, la moitié des ménages français. Est-ce qu'il peut juridiquement imposer qu'on achète des voitures électriques faites en France? Évidemment, ça n'est pas possible, puisqu'il n'y a à peu près pas assez de voitures électriques faites en France, il n'y en a quasiment pas. Et de toute façon, légalement, il ne peut pas le faire.
Une sur deux aujourd'hui, chinoise.
Il ne peut pas le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'on est face à une situation économique qui est largement la même, et que pour des raisons profondément idéologiques, que je respecte totalement, je veux dire, l'histoire des idées, moi, c'est ce qui me passionne, mais aussi maintenant incorporé dans des dispositifs légaux, ce qui va se passer concrètement, enfin, je ne sais pas si on se rend compte comme de la folie de ça, moi, je ne sais pas si Eli Cohen a conscience de ça, on va soutenir. Donc au nom effectivement du bien-être du consommateur et aussi évidemment de la défense de l'industrie automobile européenne ou française, que je peux comprendre, on va quand même avoir nos impôts, l'argent public, qui effectivement, alors que nous avons un déficit colossal, une dette publique complètement délirante, nos impôts vont partir en Chine.
Oui.
Nos impôts vont partir en Chine.
C'est ça.
On en est là. Et ça ne suscite pas plus de débats que ça. Je veux dire, si j'étais chinois, si vous voulez, si j'étais dirigeant chinois, je serais quand même très très heureux d'en arriver là. C'est-à-dire que on n'est plus... je forcis le trait juste pour le plaisir d'amuser mes collègues ce matin, mais quand j'étais jeune aussi, on nous parlait de la théorie de la dépendance. Il faut voir quand même qu'il y a quand même des scénarios où l'économie française on va bientôt être, nous aussi, du côté de la, hein, de la théorie de la dépendance, à l'idée qu'il y a des rapports profondément inégaux dans les relations mondiales, avec l'idée que c'était le Nord qui était dominant par rapport au Sud. Il faut vraiment quand même qu'on réfléchisse, nous, la France, qu'on est en train de devenir, parce que notre dépendance matérielle vis-à-vis, encore une fois, de puissances qui se pensent comme des empires, qui sont des régimes totalitaires, qui n'ont pas nos contraintes démocratiques sur les décisions, quand je vois qu'en France, effectivement, on n'est pas capable de produire des médicaments de base, je pense qu'il y a quand même vraiment des questions qu'il faut se poser, qu'il faudrait peut-être sortir d'une illusion française par rapport à notre soi-disant puissance, notre soi-disant richesse, et regarder un peu la réalité matérielle du monde, la réalité matérielle du monde.
Je crois que le problème, malheureusement, c'est plus un problème de prise de conscience. La prise de conscience a eu lieu, effectivement, à la suite de la crise du Covid. On a découvert qu'on n'était pas capable d'avoir des masques, des vaccins, des produits anesthésiants, des traitements anti-cancer. On a découvert l'incroyable dépendance, petit 1. On a découvert en plus que les systèmes de régulation qu'on avait mis en place, c'est-à-dire l'obligation faite à l'industrie pharmaceutique d'ouvrir ses livres pour expliquer la trajectoire de fabrication d'un médicament et comment était sécurisée chacune des étapes, ça ne fonctionnait pas du tout. On a découvert que les dispositifs qu'on avait pris pour augmenter les stocks des médicaments critiques n'avaient pas été respectés pour des raisons d'impératifs budgétaires. Donc on a découvert tout ça. On a découvert même que l'arrêt de la livraison de quelques composants électroniques d'Asie mettait notre industrie automobile totalement en panne. On a découvert que même notre aéronautique, même Airbus dépendait complètement des éponges de titane qu'il fallait aller chercher en Russie. Et donc cette prise de conscience a eu lieu, et notamment à Bruxelles, où on a fait un travail impressionnant. On a scanné et screené toutes les filières industrielles et on a essayé de voir quels étaient nos points de vulnérabilité extrêmes. Alors, dans certains cas, on a dit ok, on accepte ces points de vulnérabilité. Dans d'autres cas, on a dit là, non, c'est des composants absolument critiques. Et par rapport à ces composants absolument critiques, il faut déployer ce qu'on appelle des politiques de résilience, c'est-à-dire, un, augmenter les stocks, deux, diversifier les sources d'approvisionnement, et trois, dans certains cas, particulièrement critique, relocalisée. D'où la politique des PIEC qui a été mise en place au niveau européen et les efforts qui sont faits dans le domaine de la batterie, des composants électroniques, des électrolyseurs, du quantique, de la filière hydrogène, etc. Le problème, moi c'est ce que je dis toujours, c'est quand on compare les sommes que mobilise l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine, c'est simplement dérisoire. Si vous regardez un exemple que je donne toujours, ce que fait la Chine pour la préparation de la 6G en matière de télécom, c'est hallucinant. Ils sont en train de financer des bouquets de satellites, etc. En Europe, il n'y a pas l'ombre du début, du commencement d'une réflexion sur la 6G.
Jean-Marc Daniel, qu'on est en train de décrire, c'est vraiment de la réalité ce qu'on est en train de décrire. Est-ce qu'on peut opposer comme argument libre-échange et concurrence aux réalités qu'on est en train de décrire?
Mais écoutez, franchement, deux choses. Premièrement, quand Gilles nous dit on subventionne le fait d'acheter des automobiles chinoises, on fait de la dette publique pour financer la Chine. Mais quand la Chine subventionne son industrie, elle nous subventionne à nous. C'est-à-dire que si la Chine subventionne son industrie, elle baisse les prix, effectivement, et ça augmente le pouvoir d'achat des Français. Donc, c'est exactement symétrique. C'est exactement la même chose.
Je ne sais pas si la symétrie est parfaite, mais j'entends ce que vous dites.
En revanche, ce que je trouve absurde, c'est de financer par les dépenses publiques l'importation d'un produit dont nous sommes sûrs que nous ne l'avons pas, le pétrole, dont nous sommes sûrs qu'il est nocif à l'avenir de la planète, le pétrole, et dont on sommes sûrs qu'il ruine donc les finances publiques, le pétrole. Donc c'est ça qui est un véritable enjeu.
C'est marrant que tu ne termines jamais tes raisonnements. Parce que dans le cas de la Chine subventionne son industrie nationale pour démarrer. Et pour nous éliminer. Et donc ça nous sert. Mais une fois qu'ils nous ont éliminés, ils ont constitué des champions qui aujourd'hui peuvent exporter massivement, faire des profits considérables et tuer notre propre industrie.
Oui, mais dans le raisonnement, il y a l'idée, il n'y a que la Chine et nous. Mais il y a aussi l'Inde, qui est le pays qui a la deuxième niveau.
Non, sur le véhicule électrique dont on parle, tu as vu l'information qu'on a eue la semaine dernière, l'Allemagne va importer 200 000 véhicules électriques.
C'est le Lower Sixt qui a fait une commande colossale.
Il y a l'Inde, il y a la Corée, il y a le Vietnam, il y a tout un tas de pays qui sont en train de monter en puissance. Juste, deuxième élément. Il faut regarder les balances commerciales, il faut regarder encore une fois les balances des paiements courants. Tous ces pays qu'on nous met en modèle sont des pays qui sont dans le rouge. Déficit. Et même la Chine est dans une situation où elle a arrêté son déficit extérieur parce qu'elle a bloqué ses touristes. Mais dès qu'elle va laisser sa population de nouveau vivre, eh bien elle va être en déficit de sa balance des paiements courants.
Mais il y a des effets d'irréversibilité. Il se trouve que quand j'étais étudiant, j'ai fait mon stage à La Rochelle dans une usine de terres rares qui allait l'époque, était opéré par Ron Poulenc. On faisait du raffinage de terres rares, etc., etc. Et puis, 10 ans après, je me suis dit, tiens, au fait, qu'est devenue cette usine dans laquelle j'étais passé, fermée, disparue.
Mais moi, j'ai le même anecdote.
Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mené à bien une politique, d'abord d'exploitation de leurs ressources naturelles, puis de raffinage, puis de baisse de prix, puis de conquête commerciale, puis d'élimination de leurs concurrents. À l'arrivée, disparition totale de leurs concurrents potentiels aux États-Unis, en France. Et il ne restait plus que les Chinois qui, du coup, ont maîtrisé une ressource cruciale, ont fixé les prix et ont emmagasiné des prix de monopole.
Moi, j'ai la même histoire. Personnelle. Moi,
on a plus que 6 minutes. C'est passionnant, cette histoire.
J'ai fait mon stage ouvrier dans une grande école scientifique à caractère militaire, dans une mine de charbon.
Oui.
Une mine de charbon, en France, c'est à Saint-Étienne. Bon, la mine de charbon, elle est fermée. Et je pense que c'est
pas... Je suis pas sûr que la comparaison soit...
Si, parce qu'à la même époque, Jean-Jacques Servan-Schreiber publie un livre qui s'appelait le défi américain. Mmh. Et il expliquait dans le défi américain qu'on allait effectivement, on avait commis 2 erreurs. La première erreur, c'était de subventionner Charbonnage de France, d'essayer de maintenir, au nom de l'emploi, au nom de l'indépendance énergétique de la France, un secteur qui était totalement périclitant. Et la deuxième, c'était de confier la montée en puissance de l'informatique à l'État, parce que l'État avait montré qu'il était incapable de mener à bout un projet
dans l'actualité
industriel. Il avait raison.
Gilles, dans l'actualité, on a les Allemands qui, pour la deuxième fois, font un coup d'éclat en décidant d'autorité publique, politique, choix politique, de bloquer une opération de rachat par des investisseurs chinois. Là, il s'agit de 2 entreprises de semi-conducteurs. On avait eu un précédent avec une entreprise de robots allemande. Est-ce que c'est du bon sens germanique ou du protectionnisme scandaleux qui mériterait d'être porté devant l'organe du règlement des différends de l'OMC?
Eh bien, c'est les deux. C'est du bon sens. C'est du bon sens.
Moi, ça me paraît un peu cohérent de se dire, bon, Élie vient de nous raconter...
Non, mais attendez, je vous interromps. Là, on est en train de tout mélanger. Oui, là, il s'agit d'un investissement. Là, il s'agit du contrôle des investissements. Le contrôle des investissements, ça ne relève pas du tout de l'OMC. C'est pas du tout un problème tout d'échange ou d'entorse aux échanges. Et la protection des investissements, ça a été un sujet qui a été beaucoup débattu au niveau européen. Il se trouve que c'est à la demande des Allemands qu'on a adopté un règlement des investissements au niveau européen qui est très favorable aux Chinois, alors même qu'on dépeignait les Chinois comme des concurrents systémiques. Et là, il y a un vrai problème de cohérence de la politique allemande. Et je crois qu'ils sont en train de réaliser leur erreur, qui consistait à la fois à vouloir favoriser l'investissement extérieur et notamment l'investissement chinois, et deuxièmement, maintenir ce qui leur reste d'avantage comparatif en matière industrielle, notamment dans un certain nombre de filières qui ont été déterminées comme stratégiques.
Mais c'est du protectionnisme pour vous, là, ce que fait l'Allemagne?
Ah non, pas du tout, là. D'accord. C'est du contrôle d'investissement.
Et Jean-Marc, c'est du protectionnisme?
Mais c'est une forme de protectionnisme. Ce que je souligne quand même,
c'est du contrôle d'investissement.
C'est du contrôle d'investissement. Oui. Et donc là, on est quand même là aussi dans une contradiction qui consiste à dire, il faut que nous soyons attractifs, il faut attirer les capitaux, et dès que les capitaux arrivent, ils disent, ah non, non, mais pas eux. Non, non, il faut attirer les capitaux, je sais pas, il faut que les capitaux, ils arrivent uniquement de Malte.
Mais il y a de choquant à ce qu'on dit, ce qu'on veut développer la base industrielle européenne et faire en sorte qu'on ait dans la base industrielle européenne des tissus industriels, des filières le plus complètes possible dans le cadre d'un monde qui est en train de changer. On sort effectivement d'un monde de la pure circulation de flux de biens, de monnaie et d'informations vers un monde où on constate l'usage stratégique de l'échange, l'usage stratégique de l'investissement, l'élimination de certains concurrents par le biais de politiques d'aide publique, etc. Là, on est tout simplement essayé de trouver un nouvel ordre économique d'échange et d'investissement, parce que l'ancien ordre multilatéral a pris plein de coups dans la figure.
Gilles avait commencé, et puis... Donc par rapport à cet exemple-là qui est dans l'actualité, on ne parle pas du tout de Charbonnage de France, là, mais on parle vraiment d'un exemple dans l'actualité. Faut-il attirer les investisseurs, peu importe le pédigré de l'investisseur, ou est-ce qu'il y a un moment où il faut que le politique, vous disiez qu'il y avait une absence de vision politique, doit reprendre la main et considérer que là, on parle de semi-conducteurs, et parce que ce sont des semi-conducteurs, comment vous voyez l'histoire?
Mais moi, ce que
on
n'a
que 3 minutes. Hein,
non, mais moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, moment publicité, mon premier livre qui est tout petit et que tout le monde peut trouver gratuitement sur internet s'appelle La dispute des économistes, qui a été écrit pour les lycéens. Je représentais 4 représentations du monde en économie, c'est-à-dire effectivement l'échange, le circuit, donc en gros ça serait Keynes, le pouvoir, donc disons Marx pour aller très vite, et la question écologique. Et effectivement, et je pense que ces 4 représentations, il faut les connaître et qu'elles ont toujours existé. Et comme le dit Eli Cohen, il y en avait qui étaient dominantes à certaines époques. Et là, on a un retour très fort du pouvoir que moi je lis vraiment de façon évidente, je pense que tout le monde le comprend, avec la contrainte écologique. Et effectivement, notamment au niveau de l'Union européenne, ce qui a été aussi difficile pendant des années, c'est qu'effectivement, comme là pour le coup ça fait plaisir à Jean-Marc, l'économie allemande a toujours été une économie d'exportation, alors d'exportation à la fois de machines industrielles mais aussi de biens de consommation avec les fameuses voitures allemandes. C'est quand même extraordinaire les voitures allemandes, c'est-à-dire que dès que vous avez un pays qui se développe, la première chose que fait la bourgeoisie, c'est d'acheter des BMW, des Mercedes. Enfin, c'est fabuleux quand vous êtes l'Allemagne. Et donc, l'Allemagne a pendant très longtemps été hyper réticente à effectivement à demander quoi que ce soit à la Chine parce qu'elle le voyait à la fois comme un lieu de production, de délocalisation de processus et aussi comme un lieu de consommation. Même chose avec les États-Unis. C'est pour ça que, effectivement, il y a eu ces déclarations très fortes de Thierry Breton, le commissaire européen, qui a quand même dit que donc, l'Inflation Reduction Act de Biden était inacceptable. Enfin, il y a des mots très forts qui ont été prononcés aussi par le ministre du pays là, qui gouverne, qui préside le Conseil de l'Union européenne actuellement. Mais j'ai beaucoup de mal à.
La République tchèque.
La République tchèque, merci beaucoup Jean-Marc. J'ai lu ça hier, j'avais oublié. Et. Effectivement, mais j'ai beaucoup de mal à croire que l'Union européenne aille devant l'Organisation mondiale du commerce pour attaquer les États-Unis, ouais. Parce que effectivement, on est aussi aujourd'hui, là c'est là que tout est lié, très dépendant du gaz naturel liquéfié américain. Et il y a quand même encore quelques semaines, on avait à la fois Bruno Le Maire et le ministre allemand de l'économie qui demandaient aux Américains de baisser le prix de leur gaz. Si vous êtes polonais, je pense qu'actuellement vous n'avez pas très envie de rentrer dans l'art des Américains. Donc effectivement, là l'Union européenne,
on est quand même très désarmé. Hein.
On est très désarmé.
Mais on a fait un sacré constat aujourd'hui, voilà, mais les solutions.
C'est ça.
À part ce que vous expliquiez, Eli Cohen, tout à l'heure, elles ne sont pas légion.
Mais il faut éviter la prise de conscience. Moi, je dis primum non nocere, évitons de faire des erreurs. On a fait des erreurs sur le nucléaire, il ne faut pas faire des erreurs avec le protectionnisme.
50 secondes pour conclure, Eli Cohen, là, sur les solutions.
Non, je dirais la prise de conscience a eu lieu au niveau européen. Les politiques ont été définies. La mise en place de nouveaux organismes est en train d'être faite. Par exemple, on a tiré les leçons de l'efficacité américaine du DARPA, du BARDA, et on a essayé de créer au niveau européen l'ERA. Alors, comme toujours en Europe, ça démarre très lentement, c'est souvent très décevant, c'est très procédurier. Mais, en tout cas, on peut dire que la prise de conscience a eu lieu, les politiques ont été mises en place. Maintenant, il faut passer à l'exécution en mettant surtout des moyens en rapport avec les vrais rapports de force au niveau mondial.
Il faut aller assez vite quand même.
Comment ?
Il faut aller assez vite, parce que les choses vont vite.